الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الليلة ليلة 13 من شهر جماد الآخرة من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le dimanche 17 février 2019. Et avant d'entamer le sujet, la nouvelle série de cours portant sur l'écrit intitulé Masailul Jahiliya, que l'on a traduit de façon rapprochée par les pratiques de l'ère pré-islamique, chacun de nous doit savoir que connaître ce que l'on appelle Umurul Jahiliya, les choses de l'époque pré-islamique, le fait de connaître le mal et de le connaître en détail, fait partie de ce qui est demandé religieusement. Le musulman, le croyant, doit connaître tant bien ce qui est bon que ce qui est mauvais, afin d'appliquer ce qui est bon et aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser et abandonner tout ce qui est mauvais. Et l'on ne peut détester quelque chose qui est mauvais que si l'on sait que c'est une chose mauvaise, qu'elle est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala, et tout en connaissant aussi la manière à suivre pour pouvoir délaisser ce mal, afin d'y prendre garde et de mettre en garde autrui contre ce dernier. Il fut dit anciennement, Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Comment pourrait se prémunir une personne qui ignore de quoi doit-elle se prémunir? Celui qui ne connaît pas la maladie, comment va-t-elle s'en prémunir et donc éviter les aliments dont la consommation conduit à cette maladie, si la personne ignore même l'existence de cette maladie? D'où ce principe dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de rechercher le savoir dans les choses qui sont mauvaises. Et d'où le récit rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, d'après le noble compagnon Hudhaifa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qui dit « كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » Autrefois, les gens interrogeaient le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sur le bien. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Ceci nous montre la pure éducation qu'il a reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intelligence, le savoir et la grande compréhension de ce noble compagnon, qui a su qu'il n'est pas suffisant de connaître le bien, car beaucoup de gens font le bien dans leur vie en termes de bonnes actions, des bonnes actions qu'ils annulent par un mal dont ils ignorent la dangerosité et la gravité. Un mal relevant du domaine du polythéisme, relevant du domaine de la mécréance. D'où ces questions que posait ce noble compagnon Hudhaifa, radiyallahu anhu, au prophète, alayhi salatu wassalam, afin que ces maux ne l'atteignent pas, car pour se voir épargné du mal, il faut le connaître. Pour se voir épargné de l'égarement, il faut le connaître. Pour éviter l'innovation, pour éviter le polythéisme, pour éviter la mécréance, pour éviter d'annuler ton islam, il faut connaître tout ce qui entre dans ce cadre. Et le fait de connaître le mal conduit la personne à y prendre garde, mais aussi à mettre en garde contre ce dernier. Il n'est donc pas suffisant de connaître le bien, de s'intéresser aux règles de la prière, qui est un énorme bien puisque c'est le deuxième pilier de l'islam, du jeûne, du pèlerinage et de toute autre action aimée et légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, il faut connaître ce qui est annulatif de ces actions, ce qui pervertit ces actions, ce qui souille la foi du croyant, voire même qui l'efface. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et dans le livre d'Allah, dans le Coran, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mal a été détaillé. Allah Azza wa Jalla a dit: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous exposons clairement nos signes afin que la voie des criminels soit distinguée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la bonne voie, mais il nous a aussi montré la mauvaise voie afin d'y prendre garde. Il nous dit dans son livre subhanahu wa ta'ala: وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ. Et nous l'avons guidé au devoir. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a enseigné à l'homme, son serviteur, la voie du bien afin qu'il la suive, et celle du mal, afin qu'il y prenne garde. Donc, celui qui étudie le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra que le mal a été détaillé, tout comme le bien l'a été aussi. Et lorsque cette connaissance du mal est faible chez la personne ou chez les gens, l'on constate que ces derniers tombent dans ce mal, dont leur connaissance est faible. Celui qui ignore que dans son chemin qu'il emprunte, qu'il suit, il y a des embûches, des obstacles, des pièges. Il ne sait pas qu'il marche sur une route dans laquelle un serpent est caché et n'attend qu'une chose, c'est son passage pour le piquer et le tuer. Il ne sait pas que dans sa route, il y a un trou dans lequel il va tomber car il en ignore la présence. De même, dans ton cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ta vie, dans ta pratique religieuse, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des gouffres, des précipices, il y a des ennemis, il y a tout un tas de choses qui sont mauvaises et que tu dois connaître pour continuer à avancer vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et chez les gens qui sont tombés dans ce précipice profond à cause de la méconnaissance du mal en détail, ils confondent le mal au bien et le bien au mal. Pour eux, un acte qui relève de la sunna est dans leur compréhension ou conception une innovation. Pendant que l'innovation est pour eux une sunna. Pour eux, qui sont tombés dans ce précipice à cause de la méconnaissance du mal en détail, le polythéisme est devenu du shirk. Et le shirk, le polythéisme, est devenu du tawhid. Et le tawhid est devenu du shirk, du polythéisme. À cause de quoi? De l'ignorance. Du manque de connaissance. L'un d'entre nous pourrait dire: quel est notre besoin à connaître ces questions-là? Mais avant même de répondre à cette question, c'est en ce sens, et c'est à ce titre, que les savants de l'islam ont écrit des ouvrages traitant de choses mauvaises, tels que le livre que nous nous apprêtons à étudier, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et la réussite. Il est certes capable de tout. À ce titre, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a constaté chez un grand nombre des membres de la communauté à son époque, et chaque époque qui arrive est pire que l'autre, même si le bien ne cesse d'être présent. À son époque, il a constaté des pratiques, des conduites, des agissements ne relevant pas des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt relevant des enseignements de l'ère pré-islamique, où régnait l'ignorance, l'égarement, et les gens étaient plongés dans les ténèbres, de toutes sortes d'égarements de la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par souci pour la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a écrit cet ouvrage bénéfique et extrêmement utile, dont le contenu doit être connu par les musulmans. Il l'a intitulé Masailul Jahiliya. Masailul Jahiliya, que l'on a traduit approximativement, ce n'est pas une traduction que j'impose, mais plutôt c'est un rapprochement ou une proposition. Ces deux termes, Masailul Jahiliya, le premier Masail est un pluriel. C'est le pluriel du mot Mas'ala. Mas'ala qui pourrait signifier une question, un sujet, et qui pourrait aussi signifier des pratiques. Pourquoi cela? Le mot qui vient après, al-jahiliya, ce qui est appelé al-jahiliya, c'est un terme issu lui-même d'un autre terme qui est al-jahl, l'ignorance. L'ère pré-islamique, c'est-à-dire avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne vienne à Quraysh, portant le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invitant à la religion de l'islam, à l'unicité d'Allah azza wa jal, les gens étaient plongés dans les ténèbres. Ces ténèbres ont été appelées par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, jahiliya. Ce mot n'a pas d'équivalent en français. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est l'époque d'ignorance pré-islamique. Car ce terme est puisé du mot « jahl » qui signifie « l'ignorance ». Et cette appellation est donnée à l'état dans lequel les gens régnaient et plongeaient avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsque l'on dit « Masailul Jahiliya », les questions de l'ère pré-islamique d'ignorance, on comprend que ce qui est voulu ici, ce sont les pratiques, les agissements, les moralités, les actes cultuels, les paroles, les habitudes, tout ce qui était mauvais que l'on retrouvait chez les gens vivants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers lesquels il fut envoyé, justement afin d'éradiquer cet état qui a été appelé al-jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à ces gens-là pour mettre un terme à tous ces mauvaises conduites, ces agissements erronés, ces croyances malsaines, détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la réponse à cette question, pourquoi devons-nous connaître ces pratiques, agissements et conduites relevant de l'ère d'ignorance pré-islamique? La réponse est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sagesse venant de lui, et vous savez qu'Allah est immensément sage, il décrète ce derrière quoi se trouve une grande sagesse, qui peut parfois nous apparaître et des fois nous échapper, mais lui, rien ne l'échappe, subhanahu wa ta'ala. Allah a décrété par justice et par sagesse, pardon, subhanahu wa ta'ala, que les membres de cette communauté, beaucoup parmi eux, tomberont après son envoi en tant que messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses pratiques, dans ses agissements, ses conduites, ses croyances, ses idéologies, relevant de l'ère de l'ignorance pré-islamique dans laquelle a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement y mettre un terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un récit que vous avez sûrement entendu à ses compagnons, radiyallahu anhum, en s'adressant aux membres de la communauté, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Vous suivrez très certainement les voies de ceux qui vous ont précédés. حذو القذة بالقذة. Cette expression, حذو القذة بالقذة, c'est-à-dire comme les plumes viennent les unes après les autres au même niveau. Vous voyez les plumes, celles qui sont utilisées sur les flèches anciennement, ces plumes viennent les unes sur les autres, elles sont calées les unes aux autres au même niveau et très proches. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés comme les plumes se suivent les unes les autres. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Au point où si ces gens-là entraient ou pénétraient le terrier du lézard, vous y entrerez avec. Et vous avez sûrement déjà entendu que le prophète alayhi salatu wassalam a cité en exemple le terrier du lézard du fait que ce terrier a une particularité, c'est qu'il est sinueux. Il n'est pas un trou uniforme ou droit, mais il est sinueux. Il est donc difficile d'y entrer. Une allusion au fait que le suivi des communautés nous ayant précédés dans des choses qui sont mauvaises, répréhensibles, détestées par Allah tabaraka wa ta'ala, va être vraiment fort. Au point où si ces gens entraient ou pénétraient le terrier du lézard, les suiveurs viendraient avec eux. Wal'iyadu billah. Et dans cette époque qui est la nôtre, on le voit ce suivi, sous diverses formes, ne serait-ce que dans la manière de se comporter, de s'habiller, de manger, la coiffure des cheveux, et bien d'autres choses encore, qui ne viennent pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la sunna est pourtant la source de la fierté du croyant, qui ne viennent pas du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont le suivi est le secret du salut, dans cette vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Le fait de voir des gens se comporter, s'habiller, se coiffer comme des communautés de l'époque de l'ère pré-islamique est un indice d'un manque considérable dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas suffisant? Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ne renferme pour toi pas assez d'enseignements, les enseignements dont tu as besoin? Comment suivre ceux qui se sont opposés aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais vous verrez que la plus grande chose dans laquelle certains sont tombés dans ces pratiques relevant de l'ère d'ignorance pré-islamique, c'est bien le shirk, le polythéisme, wal'iyadu billah. Et on ne peut prendre garde à ces agissements, ni même mettre en garde contre eux, que si l'on connaît ces choses de manière détaillée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et chaque messager a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala afin de sensibiliser sa communauté sur le bien et le mal. L'imam muslim rahimahullah nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. » Il n'y a pas eu de prophète avant moi, sans qu'il ne soit pour lui un devoir d'orienter sa communauté vers le bien qu'il a connu pour eux et de les avertir contre le mal qu'il a connu pour eux. Tous les messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ont été envoyés en portant ce message détaillant le bien et le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a été envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans une époque où la majeure partie des habitants de la terre ont été détestés par Allah. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna allaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum illa baqaya min ahlil kitab » Allah a regardé les habitants de la terre pour lesquels il a éprouvé de l'aversion, à l'exception d'une infime partie des gens du livre, des gens qui étaient encore sur les enseignements saints qui n'étaient pas falsifiés, des prophètes envoyés avant eux de manière générale, c'est-à-dire sur le tawhid, qui n'associait rien à Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des habitants de la terre était donc détesté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans ce milieu de l'ignorance, du polythéisme et de toutes sortes de maux, tous aussi détestables les uns que les autres. Il a commencé à transmettre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était seul, puis une personne l'a suivi. Une autre, une troisième, un groupe d'une dizaine, un peu plus. Il a fait face à des ennemis qui lui ont témoigné l'animosité sans pareil, qui se sont opposés à lui, non seulement en lui portant atteinte, mais aussi physiquement. Il a enduré, transmis, il a assaini les mauvaises croyances, prodigué le conseil, appelé les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les pires de ses ennemis, certains ont adhéré à son message. Il est devenu à leurs yeux l'être le plus cher, sallallahu alayhi wa sallam. Il a persévéré, continué, il a enseigné à ceux qui étaient autour de lui, qui eux-mêmes ont transmis, et ainsi de suite. C'est ainsi que la parole d'Allah s'est propagée dans cette contrée dans laquelle il fut envoyé, Mecca, la Mecque, puis ses alentours. Et ainsi de suite, jusqu'à réunir derrière lui un très grand nombre de croyants en Allah, de muwahhidoun, de monothéistes. Puis, il est allé accomplir le pèlerinage d'adieu après avoir accompli sa mission et peu de temps avant de quitter ce bas monde. Il a alors prononcé ce discours connu, le discours d'adieu, ce discours qu'il a prononcé, sallallahu alayhi wa sallam, après lequel il a vécu 81 nuits, comme le dit le Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, c'est-à-dire à peu près 2 mois et demi seulement. Le discours annonçant sa fin, dans lequel il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna kulla amrin min amri al-jahiliyyati mawdu'un tahta qadamayya hatayn. » Chaque chose relevant de l'ère pré-islamique est désormais sous mes 2 pieds que voici. Il les a écrasés, sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrasé le shirk, il a écrasé al-dalal, l'égarement, il a écrasé les mauvaises croyances. Dès aujourd'hui, tout ce qui relève de l'ordre de l'ère pré-islamique est en dessous de mes 2 pieds que voici. Ça n'a plus aucune valeur. C'est inacceptable. Et ces choses-là ne trouveront pas leur place dans notre communauté. C'est à cela qu'a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman a donc le devoir, de manière obligatoire, de mettre sous ses pieds tout ce qui relève de la jahiliya. Et de ne porter aucune considération à tout agissement pratique relevant de cette époque d'ignorance. Et justement, le musulman doit connaître ces choses-là, comme nous l'avons dit plusieurs fois, afin justement d'y prendre garde. Et nous allons donc commencer à lire ce qu'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية. En introduction de son écrit, l'auteur nous dit: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. L'auteur, rahimahullah, nous dit: ce qui va suivre sera un regroupement de différentes questions dans lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a contredit les gens de l'ère pré-islamique, parmi les gens du livre mais aussi les illettrés, des choses dont le musulman ne peut se passer de la connaissance. Le musulman ne peut pas se passer de ces choses-là. Ce qui va être cité ici sont un certain nombre de choses, mais la liste n'est pas exhaustive. Il y en a plus de 120. Mais la liste n'est pas complète, car ces agissements sont plus nombreux. Si ce n'est que ceux dont l'auteur va parler, rahimahullah, ont été répandus. Et le besoin s'est fait de les démontrer et les dévoiler. Il nous dit, en citant deux vers de poésie, dont chacun est issu d'une poésie distincte de l'autre. Dans le premier vers, فَضِدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ ضِدُّ, c'est-à-dire, le contraire de la chose est embelli par son contraire. On pourrait traduire autrement et dire, la chose est embellie par son contraire. C'est-à-dire, la beauté de la chose qui est belle est mise en évidence dès lors que l'on prend connaissance du contraire de cette chose qui, elle, est moche. Lorsque l'on compare ce qui est moche, ou l'on regarde ce qui est moche, l'on comprend immédiatement que le contraire de cette chose, c'est bon. De même, dans tous les domaines de la vie, lorsque tu vois que une nourriture n'est pour toi pas bonne, cela montre que tu vas en préférer une autre. Et tu t'es donc rendu compte que celle que tu as préférée est bonne en ayant goûté à celle qui ne l'est pas. C'est ainsi que tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, voit cette beauté et bonté mise en évidence par le contraire de cette chose. La bonne santé. Lorsque tu veux parler à quelqu'un de la bonne santé, tu pourrais en parler pendant des heures. Mais en te contentant de lui parler de la maladie, en donnant des exemples de maladie, la personne comprend immédiatement l'importance de la bonne santé. Dès lors que tu as parlé du contraire, tu n'as peut-être même pas parlé de la bonne santé. Tu n'as parlé que du contraire. Quel est le résultat? Tu comprends la beauté du contraire de cette chose qui ne l'est pas. Pareil pour le deuxième vers, وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Et c'est par leur contraire que les choses se distinguent. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite, فَأَهَمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهَا خَطَرًا عَدَمُ إِيمَانِ الْقَلْبِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Parmi ces choses, celle qui est la plus gravissime et dangereuse, c'est l'absence de foi dans le cœur en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. Si s'ajoute à cela le fait de considérer comme bon les actes des gens de l'ère pré-islamique, alors la perte devient totale. Puis il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et ceux qui ont eu foi au faux et ont mécru en Allah, ces gens-là sont les perdants. Deux choses ont été réunies dans ce verset. Mais tout d'abord, comme nous l'avons dit, la liste ici n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. Et le fait que l'auteur, rahimahullah, dise فَأَهَمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهَا خَطَرًا, la chose la plus dangereuse de ces pratiques, est une allusion au fait qu'elles ne sont pas au même stade de gravité. Parmi ces choses qui relèvent de l'ère pré-islamique d'ignorance, il y a du polythéisme, il y a de l'innovation, il y a des péchés majeurs et d'autres choses. Elles ne sont donc pas toutes aussi graves les unes que les autres, mais certaines le sont plus que d'autres. Et la plus grave, c'est l'absence de foi dans le cœur. Le fait de ne pas avoir foi en ce par quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de ne pas y croire de manière absolue, ou alors l'absence de foi dans le cœur envers seulement une seule chose parmi ceux avec quoi il est venu, sallallahu alayhi wa sallam. Cela est de la mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il y a une règle qui est générale. Elle est la suivante. Tout ce qui contredit la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la jahiliya. Tout ce qui contredit sa guidée, car il a été envoyé pour appeler à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui contredit la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, relève de la jahiliya, relève du mal de l'ère pré-islamique d'ignorance. J'ai entre mes mains le commentaire du noble cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, et qu'Allah le récompense pour tous les efforts qu'il a et qu'il ne cesse de fournir dans la propagation de la science utile et l'enseignement des bonnes actions. C'est un commentaire que je recommande vivement à ceux qui ont accès à la langue arabe et ceux qui ne l'ont pas, qu'Allah azzawajal leur facilite d'apprendre. En tout cas, je lirai quelques passages de l'auteur, rahimahullah, du commentateur, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, chaque fois que l'on passera à une des questions citées ici par le noble Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Ceux qui ont été appelés Al-Kitabiyoun, les gens du livre, sont bien évidemment ceux ayant reçu une révélation écrite, un livre, comme notamment Al-Yahoud, Al-Nasara. Ils ont reçu un livre. Al-Yahoud, ils ont reçu Al-Tawrah, la Torah. Al-Nasara ont reçu Al-Injil, l'Évangile. Ce sont des livres qui ont été révélés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont suivi ces livres au moment où ils ont été révélés sont des croyants, aimés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais à la mort des prophètes, qui sont Moussa alayhi salam pour la Torah et Isa alayhi salam pour Al-Injil, ces deux livres ont été falsifiés. Et plus tard, le Coran a été révélé. Le Coran contient tout le bien et rejette tout le faux. Ainsi, la partie contenue dans ces deux livres que sont la Torah ou l'Injil aujourd'hui, qui n'est pas falsifié, est confirmé dans le Coran. et celle qui est falsifiée est rejetée par le Coran. C'est pour cette raison que le musulman se contente du Coran, car il contient tout le bien et rejette tout le mal. Ces gens-là sont appelés Ahlul Kitab, les gens du livre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé à l'époque de Al-Jahiliya, où il y avait des habitants de plusieurs pratiques, de plusieurs croyances. Il y avait parmi eux Ahlul Kitab. Il y avait des juifs, des chrétiens. Et il y avait d'autres formes d'actes cultuels, de croyances et de religion. Et le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit « وَلِذَلِكَ سُمُّوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ » Pour cette raison, ils ont été appelés les gens du livre. فَرْقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابِ Pour marquer la distinction entre eux et les autres qui n'ont pas reçu de livre. Ceux que l'on appelle Al-Ummiyun, vers lesquels a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, المراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين. Ce sont les Arabes n'ayant pratiqué aucune de ces deux religions, le judaïsme ou le christianisme. Et le terme ummiyun est le pluriel du mot ummi. Ummi, c'est l'illettré, celui qui ne sait ni lire ni écrire. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même ne savait ni lire ni écrire, et qu'il a été envoyé à des gens qui ne connaissaient ni l'écrit, ni la lecture, ni l'écriture pour beaucoup d'entre eux. Et certains la connaissaient. Ils n'avaient donc pas eu de livre. Allah Azza wa Jalla a dit « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم » Il est celui qui a envoyé aux illettrés un messager venant d'eux, issu d'eux. Donc ces gens ont été appelés par Allah Azza wa Jal Ummiyin, c'est-à-dire illettrés. Et dans plusieurs versets, nous voyons que ces gens-là étaient illettrés. Quant au terme Al-Jahiliya, mes frères, vous devez savoir que Al-Jahiliya, cet état général, que l'on appelle Al-Jahiliya, a été éradiqué. Al-Jahiliya n'existe plus. Dès l'arrivée du prophète, alayhi salatu wasalam, et la propagation de son message, cet état appelé Al-Jahiliya a été éradiqué. C'est donc une grande erreur de dire de certains peuples musulmans, pays musulmans, sociétés musulmanes, de les décrire comme étant « Mujtama'un Jahili », c'est un peuple de Jahiliya, ou alors de dire « Jahiliyatul Qarnil Ishrin », la Jahiliya du XXe siècle, des paroles gravissimes qui visent à rendre mécréants, wal'iyadu billah, les musulmans. Ce terme est faux, il ne peut plus être appliqué. Mais il y a une différence entre le fait de dire la Jahiliya de ce siècle, ou alors ce peuple de Jahiliya qui est complètement faux, et dire une action fait partie de la Jahiliya. Il est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam, de dire à certaines personnes, tu as en toi de la Jahiliya. Vous voyez la différence? Ce n'est pas pareil lorsque l'on dit certaines personnes ont en elles de la jahiliya, c'est-à-dire une partie, certaines actions, pratiques, agissements, relevant de l'ère d'ignorance pré-islamique, al-jahiliya. Cela est permis, le prophète lui-même l'a fait, alayhi salatu wassalam, ou de juger des actions comme étant des actions de la jahiliya. Par contre, de manière absolue, l'état appelé al-jahiliya n'existe plus. Donc prenez garde à ces choses-là. Le terme al-jahiliya a été cité plusieurs fois, notamment dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité non. La mort de Issa. Il faut me reprendre, si vous m'entendez dire des énormités comme celle-ci. Issa n'est pas mort. Issa n'est pas mort, alayhi salam. Issa a été élevé. Il a été élevé au ciel. Vous m'entendez dire une parole aussi grave que celle-ci et pas un d'entre vous ne me reprend. Il ne convient pas d'avoir cet agissement. Celui qui est en face de toi, peu importe qui il est, s'il dit une parole qui est fausse, tu dois lui dire que cette parole est fausse. Tu ne dois ni être timide, ni rien de cela. Tu lui dis, ce que tu viens de dire est faux si c'est faux. Peut-être qu'il tient des propos qui sont faux, sans se rendre compte. Je pense que vous ne doutez pas de ma croyance envers Issa alayhi salam. Cependant, ce que j'ai dit est une erreur. Tu dois donc me reprendre et dire attention. Et en cela, tu m'aides. Mais si tu te tais, tu m'as trahi et tu ne m'as pas aidé. Aide-moi dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Ainsi, l'auteur rahimahullah a cité la chose la plus grande et la plus grave, qui est l'absence de la foi dans le cœur. La foi en ceux qui a été porté comme message par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est quelque chose qui est gravissime. Et cela montre que tout part du qalb, tout part du cœur. Le cœur est le moteur qui pousse la personne à agir ou délaisser. Lorsque la foi n'est pas présente dans le cœur, il en découlera l'abandon des actes. Sauf si la personne est hypocrite. Elle montre en apparence des actes auxquels elle n'adhère pas dans son cœur en réalité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quand est-ce que la perte devient totale chez la personne? Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit « Ay idha hasala fasadun fi al-zahiri wal-ba'tin » فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية. Lorsque l'apparent comme l'intérieur, tous deux sont corrompus, l'intérieur corrompu par l'absence de foi dans le cœur au message du prophète عليه الصلاة والسلام, et là est l'intérieur. Et l'apparent, en considérant les agissements des gens de la djahiliya comme de bons agissements. Là, c'est la perte qui est totale. Pourquoi? Parce que la personne a été corrompue intérieurement comme extérieurement. C'est en cela que la perte est totale. Et Allah Azza wa Jalla a cité dans le verset, lorsqu'il dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ » Ceux qui ont eu foi au faux, ils ont eu la conviction au faux. Wa kafaru billah, et qui ont mécru en Allah, ils ont eu la conviction au faux. Ils ont aimé le faux et l'ont trouvé bon au point d'y adhérer et de s'y attacher. Et quant au vrai, ils l'ont rejeté. Allah Azza wa Jalla a dit Ulaika humul khasirun. Ces gens-là sont les perdants. C'est donc une perte totale. آمنوا بالباطل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله nous dit صدقوا الباطل. Ils ont cru et déclaré vrai le faux. والباطل ضد الحق فما خالف الحق فهذا باطل. Tout ce qui contredit le vrai est appelé باطل. والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. Et tout ce qui est appelé باطل est quelque chose voué à disparition, ne contenant aucun intérêt, aucun bien. Allah Azza wa Jalla a dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Qu'y a-t-il d'autre après la vérité que l'égarement? Comment êtes-vous éloigné? La première de ces questions, de ces pratiques citées par l'auteur, rahimahullah, est la suivante. Al-mas'alatul ula. Innahum yata'abbaduna bi ishraki s-salihin fi du'a'i Allah wa 'ibadatihi. Yuriduna shafa'atahum 'inda Allah li dhannihim anna Allah yuhibbu dhalik wa anna s-salihin yuhibbuna kama qala ta'ala wa ya'buduna min duni Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shafa'a'una 'inda Allah. Wa qala والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. L'auteur, rahimahullah, nous dit donc, ces gens-là, donc à chaque fois qu'il parlera de ces gens-là, il s'agira bien évidemment des gens de l'ère pré-islamique plongés dans l'ignorance. Ces gens-là adoraient ou avaient comme pratique cultuelle le fait d'associer les pieux à Allah Azza wa Jal dans leurs invocations et dans leurs adorations. Ils disaient vouloir à travers ces agissements l'intercession des pieux, en pensant que cet agissement est aimé d'Allah et que les pieux eux-mêmes l'aiment aussi. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, et ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne les nuit en rien, ni ne leur tire profit, et disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dans le sens de l'autre verset, ils ont pris en dehors de lui des alliés, et on dit, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cette action, c'est le shirk dans toute sa réalité et sa clarté. C'est le fait de solliciter autre que l'ayant droit à la sollicitation, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le peuple de Quraysh s'adonnait à l'adoration d'idoles. Il disait qu'à travers ses adorations, ses actions, ces idoles allaient les rapprocher d'Allah. C'est exactement la croyance du christianisme avec Isa alayhi salam. Ou alors avec Mariam, Marie, lorsqu'ils disent « Nous sommes chargés de péché, nous ne pouvons pas solliciter directement le Seigneur, c'est pourquoi l'on se dirige vers ces êtres pieux et saints, afin qu'ils portent notre demande au Seigneur. » On ne peut pas lui demander directement. Le souci est que cette demande en elle-même est du polythéisme majeur. Et les gens de Quraysh avaient ces agissements. Cet agissement relève de la pratique de l'jahiliya, de l'ère pré-islamique. On ne doit invoquer qu'Allah. On ne doit adorer qu'Allah. On ne doit solliciter qu'Allah dans toutes les choses que seul Allah est capable de faire. Subhanahu wa ta'ala. Et l'invoquer seul. Ces gens-là disaient, nous voulons nous rapprocher d'Allah et que nos divinités nous rapprochent de lui. Ils disaient, ce sont nos intercesseurs. Mais regardez ce qu'Allah Azzawajal dit dans le verset. Ils ont pris en dehors de lui, dans le sens du verset, ils ont pris en dehors de lui des alliés et ont dit, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et dans l'autre verset, ils ont adoré en dehors d'Allah. Cela montre que c'est du shirk. Ils ont adoré en dehors d'Allah ce qui ne les nuit en rien, ni ne leur tire profit. Allah Azzawajal a annulé ces agissements dans des versets clairs. On ne doit demander qu'à Allah. Dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre la personne qui lève ses mains parce qu'elle veut demander quelque chose et Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas dans la tombe de quelqu'un qui est pieux pour faire un sacrifice et dire que j'espère à travers ce sacrifice que j'ai fait et que j'ai offert à ce pieux enterré qu'il monte ma demande à Allah, qu'il me rapproche d'Allah. C'est ce que l'on appelle du shirk, du kufr. C'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Lorsque tu as une demande, Allah Azza wa Jalla a dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit invoquez-nous Demandez à mes intermédiaires qui me demanderont, invoquez-moi et je vous exaucerai. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu perds à lever tes mains à demander à Allah, sans intermédiaire? Mais qu'est-ce que tu perds à demander à un autre qu'Allah? Toute ta religion et toute ta foi. Wal'iyadu billah. Ils ont pensé que ces agissements étaient bons. Et l'auteur, rahimahullah, a commencé par l'adoration des pieux. Comme dit le Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, hafidahullah, il a commencé par la mention de l'adoration des pieux, car les pieux sont aimés des gens. Les pieux sont proches des gens, plus que les objets inertes. Mais il ne s'agit pas que de l'adoration des pieux. Ces gens-là adoraient aussi des objets inertes, de la pierre, du bois, du métal. Et à l'époque, ils adoraient même des dattes. Ils façonnaient une divinité qu'ils construisaient avec des dattes. Et quand ils avaient faim, nous dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ils la mangeaient. Une divinité que tu manges. C'est cette divinité que tu fais entrer dans ton estomac pour te rassasier. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Qu'est-ce qu'un arbre va faire? Qu'est-ce qu'une tombe va faire? Qu'est-ce qu'une pierre va faire? Qu'est-ce qu'une créature va faire? Alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et il est malheureux de constater que dans beaucoup des pays musulmans, des gens adorent des divinités. Et ils disent, ce n'est pas du shirk, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est simplement une cause pour me rapprocher d'Allah. Ce sont des gens pieux, aimés d'Allah, on leur demande afin qu'ils fassent monter notre demande à Allah. Et lorsque dans le village il y a quelqu'un qui était connu pour les aumônes qu'il dépensait, pour les services qu'il rendait à autrui, pour l'aide qu'il apportait aux besogneux, lorsqu'il meurt, on construit sur sa tombe et on dit, il était bon et pieux, donc proche d'Allah. Alors, lors du besoin, tu n'arrives pas à avoir d'enfants, tu n'arrives pas à aboutir dans tes projets, dans ta vie professionnelle, tu ne trouves pas ton épouse, ton époux, dirige-toi vers la tombe. Et on enlève les cœurs de la direction vers Allah, qui est au-dessus du ciel, pour les faire diriger vers un mort en dessous de la terre. Quelle raison peut accepter ça? Quelle foi saine peut accepter ça? Cela relève des actes de l'époque, de l'ère, pardon, pré-islamique. L'auteur, rahimahullah, a dit, وَهَذِهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُولِ. C'est la plus grande question dans laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a contredit ces gens. Il est arrivé et ces gens baignaient dans ces pratiques. La plus grande chose où il les a contredits clairement et explicitement, c'est cet agissement-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a apporté à la place al-ikhlas, la sincérité envers Allah, la purification de la religion et du culte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a informé que cela est la religion d'Allah. الذي أرسل به جميع الرسل par laquelle il a envoyé tous les messagers. وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. Et qu'il n'accepte des actions que ce qui lui a été voué exclusivement, que ce qui lui a été purifié. وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة. Il a informé que ceux qui font ce qu'ils ont jugé bon, Allah lui a interdit le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Sa demeure est le feu. Et cela est puisé de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. C'est Isa alayhi salam qui a dit à son peuple, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Certes, quiconque donne à Allah un égal, associe à Allah, commet le polythéisme, l'association avec Allah, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah lui a interdit le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Et sa demeure est le faux. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ Et les injustes n'auront aucun secoureur. Et toutes les questions qui vont être citées dans ce livre par l'auteur, rahimahullah, sont appuyées par des preuves tranchantes du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي تَفَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ Cette question-là est celle pour laquelle ou à cause de laquelle les gens se sont divisés en croyants et mécréants. La question du shirk, c'est la base de ta religion. La question du tawhid.
Et sa demeure est le feu.
Le feu.
Hein? Et sa demeure est le...
Le feu, t'as dit.
Est le feu. Non, barakallah fait. Et sa demeure est le feu. Sa demeure est le feu. C'est pour cette cause-là que les gens se sont divisés en croyants et en mécréants. En monothéistes et en polythéistes. La question du shirk. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah a cité quelques versets en relation avec les propos de l'auteur, parmi lesquels la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَعْبُدِ اللَّهَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ Adore donc Allah en lui vouant le culte exclusif. N'est-ce pas à Allah que la religion exclusive revient? Exclusive, c'est-à-dire complet. Aucun partage dans le domaine de l'adoration. Aucun intermédiaire ni intercesseur dans le domaine de l'adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est intermédiaire dans la transmission du message. Mais dès qu'il s'agit de l'adoration, plus aucun intermédiaire. Et méditez cela dans le Coran. Regardez, tout ce qui va suivre va traiter de la transmission du message. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ Et il t'interroge sur l'âme. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. قُلْ Dis, à chaque fois dis. Parce que tu es transmetteur. Fihima ismun kabir, ils contiennent un grand péché. Wa manafi'u linnas, et maintes utilités pour les gens. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, et le péché est bien plus grand que les utilités. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul al-anfalu lillahi wa ar-rasul, ils t'interrogent sur le butin. Dis, parce que tu transmets. Là, tu es intermédiaire. Donc, à chaque fois, on te dit, dis. Et il y a beaucoup de versets. Par contre, regardez bien quand il s'agit de l'adoration. Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, est-ce que là, Allah va dire, dis? Il dit, فَإِنِّي قَرِيب Je suis très proche. Là, on ne dit, il n'a pas dit, dis. Pour nous enseigner que dans le domaine de l'adoration, il n'y a plus d'intermédiaire. La transmission, le prophète, alayhi salatu wasalam, est notre intermédiaire. L'adoration, c'est Allah Azza wa Jal qui répond immédiatement. Et qui répond à celui qui lui demande. Cela écrase et éradique cette mauvaise croyance qui consiste à prendre un intermédiaire entre la personne et Allah dans la demande ou la sollicitation. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit, comme a cité le Cheikh Salih, hafidhahullah, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Invoquez Allah, lui vouant le culte exclusivement. Le Cheikh nous dit, الْعِبَادَةُ لَا تَنْفَعُ إِلَّا مَعَ الْإِخْلَاصِ وَالْمُتَابَعَةِ لِلْرَسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration n'est utile que si elle est accompagnée de l'exclusivité ou de la sincérité et du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, qu'Allah azza wa jalla le récompense, c'est donc la plus grande des questions de l'époque de la jahiliya, qui consiste à adorer les pieux, les saints, parmi les morts, les absents, et leur demander secours, leur demander protection, faire descendre vers eux les besoins. Wal'iyadu billah. comme on le voit chez les adorateurs de tombes, qui bâtissent des mausolées, des édifices qui sont élevés sur les tombes, sur lesquels on construit des mosquées, et on dit qu'il est bon d'aller prier dans cet endroit, et ils vont exagérer à un point tel que dans beaucoup, parmi ces endroits, ils disent « Si tu as été là-bas, tu es exempté de l'accomplissement du pèlerinage. » Pour eux, il est meilleur que d'aller à la Mecque, à la Kaaba. La Kaaba construite par Ibrahim alayhi salam et Ismaïl, la Kaaba que Abraha a voulu détruire et pour laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé des oiseaux qui avaient dans le bec et sur chaque patte des pierres pour détruire l'armée de l'éléphant qui était conduite par le dénommé Abraha, issu de la Syrie, qui était jaloux de ce lieu de culte et qui a donc... Hein? Mada? Anam, du Yémen. Barakallah fik. Vous voyez? Vous me rendez service. Parce que ce que je vous dis là, ne sont que des erreurs d'inattention. Et si vous ne m'aidez pas à ce moment-là, je ne vais pas me retrouver. Barakallah fikum. Donc Abraha, qui a voulu détruire la Kaaba, Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Et il a révélé surat Al-Fil, la surat de l'éléphant. Cette Kaaba qui a cette histoire islamique. Et après tout ça, on dit que si on va à telle tombe et à tel endroit, on est exempté, on n'a plus besoin d'aller au pèlerinage. Voire même pour certaines personnes, ils ont construit une fausse Kaaba dans des endroits. Et ils ont mis des gardes autour. Ils font at-tawaf, la circumambulation, ils tournent autour de... cette fausse Kaaba, tout cela est détesté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a été envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour appeler les gens à l'islam originel, au tawhid, à l'unicité d'Allah, à l'attachement des cœurs au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et si les cœurs sont attachés au Créateur, alors il n'y a plus d'intermédiaire à prendre. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit que dans la question du tawhid et du shirk, il y a un groupe de gens ayant cru au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et pratiqué, manifesté la sincérité dans le culte, dans l'adoration, et d'autres qui se sont opposés à son message en manifestant le polythéisme. C'est de cela que l'auteur a parlé lorsqu'il dit les gens se sont divisés en deux parties pour cette question. Beaucoup ont rejeté l'appel des prophètes à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a montré que l'animosité a pris naissance à cause de cette raison entre les prophètes et leurs opposants. Et ainsi, l'on voit que la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion chez Allah est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ainsi, l'on voit que cette question est la plus importante. Et on s'arrête dès maintenant pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et l'on reprendra la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.